Française.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
Et voilà, retour dans nos studios en compagnie de Michel Passé, représentant Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche. Mais on va faire une petite rétroscopie que j'ai intitulée « Vive le colonel Fabien ». Souvenir, souvenir. Plongeons dans les riches heures du Parti communiste français. Un petit retour vers le passé. Lorsque, durant le XXe siècle, ce parti des travailleurs et des fusillés pesait bon an mal an plus de 20% des voix. Quand le PC, devenu français en 1935, tendait la main aux catholiques, à l'aube du front, enfin d'un front, qui était alors populaire. Un parti qui incarnait la classe ouvrière et tentait d'empêcher les sociaux traîtres de la SFIO, puis du PS, de dériver vers un libéralisme qui se cachait derrière Keynes. Un parti qui marcha dans les pas d'une union de la gauche, ce qui le perdit peut-être dans les limbes électoraux. Mais ne mélangeons pas tout, comme aurait pu le dire Anne Roumanoff. D'ailleurs, à ce sujet, il ne m'étonnerait pas que le renard ait son mot à dire. À toi, le renard.
Ah, c'est à moi. Alors, ne mélangeons pas tout. Parce qu'il y a les candidats principaux, les finalistes en puissance, le président candidat Nicolas Sarkozy et le candidat président François Hollande. Ce qui compte. Ce qui compte tout. Avec le coût du chômage et des retraites, l'endettement de la France, les dépenses sociales qui chiffrent le déficit de la sécurité sociale, de l'assistanat, de la formation, ce qui rajoute, qui retranche, qui fiscalise, le gestionnaire de la main droite et le gestionnaire de la main gauche. Ceux qui voudraient faire mais ne peuvent pas, ceux qui pourraient faire mais ne veulent pas. Bon, que ceux qui ont l'ouïe fine écoutent la différence. La référence télévisuelle, ça serait les chiffres et les lettres. Après, vous avez l'ambidextre, François Bayrou. Il est vrai, plus près de la main de la raison que de celle du cœur. Aléa Jacques Thalès. La référence télévisuelle, ça sera la roue de la fortune. Ne mélangeons pas tout. Voyez la sirène marine, Le Pen, l'enchanteresse dévoreuse des âmes qui constate, photographie, écrit, résume, caricature, s'émeut, s'indigne, conspue, rejette, exclut. Rien de bon à prendre, tout est à jeter. En quelque sorte, c'est un mixte de « faites entrer l'accusé » et « bas les masques ». Ne mélangeons pas tout. Mais encore, Eva Joly, version Thalassa, ou Nicolas Dupont-Aignan, style « comment ça marche ?» Jacques Cheminade, genre « le grand bêtisier » ou Philippe Poutou et Nathalie Arthaud dans la série « Vie ma vie ». Ne mélangeons pas tout. Enfin, Jean-Luc Mélenchon. Ce sera plutôt complément d'enquête. Demandez le programme, cela tombe bien, nous avons Michel Passé dans nos studios.
Oh, merci le renard. On va en revenir justement au Parti communiste proprement dit. Qu'est-ce qui reste du Parti communiste aujourd'hui ? Des cadres, des élus, quelques militants bien formés, mais si peu d'électeurs. Alors qu'est-ce qui reste du Parti communiste aujourd'hui ?
Alors
Des idées.
Je pense que le renard qui a du flair et qui est malin n'est pas assez stupide pour se laisser enfumer sur une partie des présidentielles, si j'ose dire, et se faire piger dans son terrier. C'est que, et je répondrai à votre question, qu'est-ce qui reste du Parti communiste ? C'est qu'il y a les élections présidentielles, qui sont d'une importance capitale, comme ne fasse pas dire le contraire, mais qui sont qu'une élection. Il y en a une seconde après, qui sont les élections législatives. Et on peut, du moins j'espère, avoir un score très élevé de Jean-Luc Mélenchon. Tout dépend de notre capacité à amplifier, parce que c'est la seule campagne vivante. Hein, quand vous regardez la Bastille, il va y avoir Marseille le 14, Toulouse là ces jours-ci. C'est la seule campagne vivante. Quand Jean-Luc Mélenchon est passé à la télévision, les commentaires, c'était enfin quelqu'un qui parle clair, qui parle de nos problèmes, qui a des propositions. Donc, il n'y a pas que des aspects moroses dans la campagne des élections présidentielles. Mais il va y avoir les élections législatives. Et un très bon score du Front de Gauche aux élections législatives, ça peut modifier, bouleverser la composition de l'Assemblée nationale et les rapports de force politique dans cette Assemblée nationale. Et donc imposer que le souhait qu'auront exprimé au moment des présidentielles et au moment des législatives de voir un certain nombre de mesures de changement, pas tout, puisque certainement je ne pense pas que le Front de Gauche ait la majorité à lui tout seul à l'Assemblée nationale, mais faire en sorte qu'un certain nombre de mesures soient prises en compte par un gouvernement qui, je l'espère, sera à gauche, puisqu'on aura chassé Sarkozy. Et qu'est-ce qui reste du Parti communiste ? Mais il reste ça, hein ? Parce que quand même, c'est le Parti communiste qui a été à l'origine du Front de Gauche, qu'il a décidé dans un congrès il y a 3 ans. Pourquoi ? Parce que on pouvait prendre 2 positions. Soit rester seul, isolé, et rester à 3-4%, bon an, mal an, hein, un peu plus localement, parce que les militants du Parti communiste sont appréciés, etc. Parce qu'on a une organisation du Parti communiste, 110 000 communistes au niveau national, 2 000 dans l'Hérault, qui font d'ailleurs l'ossature du Front de Gauche, qui font, je dirais, les troupes, si j'ose dire, sans y mettre un sens péjoratif. C'est des militants, des dizaines de militants qui se battent. Ça, ça existe. Mais jamais le Parti communiste n'a été aussi fort lorsqu'il a su rassembler, lorsqu'il n'a pas été tout seul. Et donc nous avons réfléchi quelle était la façon de rassembler. Ça a été une démarche stratégique, celle du Front de Gauche, avec 2 alliés qui nous ont rejoints, le Parti de Gauche et la Gauche unitaire, mais on veut aller bien au-delà. On veut aller bien au-delà. Notre volonté, c'est de rassembler bien au-delà du Front de Gauche. Ce n'est pas de faire du Front de Gauche un parti bis de la gauche. C'est de faire un outil pour rassembler, on parlait tout à l'heure du Front National, mais pour rassembler des syndicalistes, etc., on en a bien besoin quand on voit le vote Front National dans les entreprises. Les ouvriers, les travailleurs, ceux qui souffrent le plus, combien ils se laissent tromper par des idées du Front National. De rassembler ce jeu-là, de rassembler des gens de culture, comme on a été capable de rassembler à une époque, à un moment donné. De rassembler donc très largement tous les méprisés de la France, afin de bâtir ensemble une autre politique, et pas seulement au niveau des propositions, c'est de bâtir une 6e République. Parce que la 5e arrive à bout de course, hein, y compris, peut-être le débat des élections présidentielles n'est pas intéressant, parce que la Constitution ne prête pas à ce que le président de la République soit quelqu'un d'intéressant, finalement. On peut se poser la question. On voit bien que cette République arrive à bout de souffle, avec un pouvoir présidentiel que Sarkozy a poussé à l'extrême. Je décide, je fais. J'engueule, je vais dans les banlieues, je passe au Karcher, etc. Et donc les gens n'en veulent plus de ça, ils veulent une autre démocratie, un autre souffle, et donc nous sommes en train d'y travailler, et je dirais qu'actuellement, le Parti communiste, me semble-t-il, dans le Front de Gauche, est en train d'écrire ses plus belles pages de ces 30 dernières années.
Est-ce qu'il manquait pas, là, pour ces élections présidentielles au Parti communiste, un leader charismatique, justement, tel que Mélenchon ? Est-ce que c'est pas faute de leader que vous êtes rallié au Parti communiste derrière Mélenchon ?
Bah, je ne sais pas, peut-être on aurait pu en trouver. Je ne connais pas tous les militants du Parti communiste, mais sans enlever toutes les qualités de Jean-Luc Mélenchon qui sont énormes. Pas seulement un tribun, c'est aussi quelqu'un qui sait saisir la situation des gens, la situation des pays, et le traduire en propositions concrètes et compréhensibles pour tout le monde. Il y a ça aussi. Mais un homme n'a jamais fait le printemps tout seul. Et on voit bien que derrière, il faut une organisation, il faut un rassemblement, il faut que les mots d'ordre qu'on lance à la tribune soient portés après par le peuple et par les gens. C'est ce qui est en train de se passer. Et dans une période particulière, n'oublions jamais. Des fois, on dit, mais ça aurait pu être fait plus tôt, etc. N'oublions jamais qu'on est dans une période où il y a plein d'interrogations quant à l'avenir de notre propre vie, quant à l'avenir de la planète, hein, etc. Toutes ces questions-là sont posées. Il y a besoin, il y a volonté, un réveil des gens qui disent finalement, j'ai mon mot à dire, je vais être intéressé par cette bataille.
C'est pas un peu le nouveau Jaurès, Mélenchon ?
Peut-être, en tout cas, s'il fait une aussi brillante ligne politique que Jaurès, je m'en félicite.
Bon, espérons qu'il finira pas comme lui, assassiné le 31 juillet 1914. Bon, mais d'autre part, est-ce que le PC aujourd'hui, le PCF, est-ce que c'est autre chose que la pompe à fric, la pompe à finances du Front de Gauche ? Le Front de Gauche, sans les finances du PC, c'était rien.
Non, parce que...
Vous êtes la banque du Front de Gauche.
Vous savez, non. Je vous signale que, par exemple, l'argent qui sera mis dans la campagne des élections présidentielles cette année, c'est 2 fois moins qu'il y a 6 ans. C'est donc pas une pompe Afrique. Nous avons une organisation, nous avons des moyens. Si nous avions pris un autre candidat, nous aurions engagé les mêmes moyens dans la campagne des...
Le Parti communiste, oui. Mais par contre, Mélenchon, si vous n'avez pas eu, il n'aurait eu aucun moyen.
Ah ben, c'est un nouveau parti qui a peu d'adhérents, etc., qui a peu de moyens, je dirais, en militants et de moyens financiers pour mener des batailles, disons, aussi importantes. Mais ce n'est pas notre problème. Le Parti communiste, ses moyens... qui viennent de ses adhérents, des soutiens et de ses élus, n'a de valeur que si c'est utile. On n'est pas là au Parti communiste. Moi, je renverse mes indemnités. Ce n'est pas pourquoi elles sont mises dans le coffre-fort d'une banque, de la fédération. C'est pour qu'elles servent au combat.
Le capital du Front de Gauche, c'est le capital humain.
C'est le capital humain. C'est les militants. Hein? C'est les militants. Et aussi, c'est vrai que vous le soulignez sans raison, c'est aussi des, on fait une bataille politique. Il faut de l'argent pour mener une bataille politique. C'est comme ça aujourd'hui, quoi. Eh bien, ces finances, que l'argent des élus, du reversement, des cotisations, des souscriptions des communistes servent à ce qu'aujourd'hui, dans le Front de Gauche, avec le Front de Gauche, il y ait 15% pour les présidentielles et j'espère beaucoup plus législatives de citoyens qui pensent qu'il y a un autre avenir pour la France, c'est de l'argent bien utilisé.
Et pourquoi pas à terme, c'est au lendemain des élections présidentielles et législatives, si tout va bien, pourquoi ne pas dissoudre le PCF pour se fondre, et le Parti de Gauche aussi, pour se fondre dans le Front de Gauche?
Alors certains le pensent. Je vais vous donner ma position, qui est la position du Parti communiste. Nous pensons que le Front de Gauche se nourrira s'il y a des partis qui sont dans ce Front de Gauche qui sont forts et influents. Nous sommes profondément convaincus que notre pays a besoin de partis beaucoup plus forts en adhérents, beaucoup plus influents, beaucoup plus participants à la vie démocratique. C'est une condition démocratique de la vie de la France. Et nous ne voulons en aucune manière porter atteinte à ces partis politiques, à cette idée de la République, de la vie républicaine. Et donc, en même temps, ces partis, parce qu'ils sont forts, vous venez de le souligner, à une contraire, s'il n'y avait pas eu le Parti communiste, même affaibli avec les forces qu'il représente, il n'y aurait pas eu le Front de Gauche. Il n'y aurait pas eu le Front de Gauche. C'est parce que le Parti communiste a une force et qu'il a eu l'intelligence de la mettre à la disposition de la constitution de Front de Gauche que le Front de Gauche existe. Sinon, il n'y aurait pas. Il y aurait peut-être un rassemblement hétéroclite qui vivrait l'espace d'une élection et qui se fanerait le lendemain. On en a connu en France. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est construire quelque chose, et pour construire ça, il faut qu'à l'intérieur du Front de Gauche, il y ait des partis politiques forts.
Alors, du coup, il y a eu un sacré pas en avant du Parti communiste, puisque en vous mettant derrière Mélenchon ou son représentant local, René Revol, vous mettez derrière la bannière des anciens lambertistes, c'est-à-dire des trotskistes.
Non,
on sait la lutte qu'il y a pu y avoir entre les trotskistes et puis les communistes pendant de si longues années. Oui. Il y a un sacré pas en avant.
Est-ce que ça a un sens aujourd'hui encore ?
Oui, vous savez, je ne sais pas si beaucoup de gens arrivent finement à analyser la différence entre Trotsky, Lénine, ses cousins et ses arrière-petits-cousins. Je pense que beaucoup de gens demandent à ce qu'on soit utile et qu'on fasse quelque chose. Mais moi, ça me surprend quand on me pose cette question-là. Parce que dans des grands moments de l'histoire, le Parti communiste a toujours, toujours pris ses responsabilités face au pays et a su prendre sa part pour relever la nation. Ça a été le cas. Je pense quand même Mélenchon est beaucoup plus près, même si c'est un ancien trotskiste, hein, je ne sais pas d'ailleurs, hein, j'en sais rien, est beaucoup plus près des positions du Parti communiste que l'était De Gaulle lorsqu'on a participé au gouvernement après 1945. Voyez, on n'a jamais refusé de participer lorsqu'on a senti qu'on pouvait être utile, et lorsqu'on a senti qu'on était inutile, on est parti. C'est l'exemple avec François Mitterrand.
Alors justement, on va faire un petit peu d'autocritique, là, comme au bon vieux temps. Comment expliquer que le Parti communiste soit descendu aussi bas, parti à la Libération à 30, voire 35% aux premières municipales en 1945, pour descendre jusqu'à 1,93 avec Marie-Georges Buffet aux dernières présidentielles. Est-ce que c'est pas Georges Marchais qui a été le fossoyeur du Parti communiste ?
Pas du tout, non, je ne crois pas qu'on puisse analyser les choses comme ça. Ça a été l'ensemble des communistes, le collectif, même si les dirigeants ont effectivement plus de responsabilités. L'ensemble du collectif, et je crois pour deux raisons qui ont fait qu'on a connu les reculs que nous avons, que vous avez dit, c'est pour trois raisons, je dirais. D'une part, les coups qui ont été portés au mouvement communiste au niveau international, certains coups à juste titre, hein. Voilà, donc ne revenons pas dessus. La deuxième, c'est que le Parti communiste n'a plus représenté une alternative possible pour le pays. C'était un parti bon qui voulait, etc. et tout, dans son coin, à qui on reconnaissait localement, souvent d'ailleurs, beaucoup de capacités à gérer les affaires locales, à être dans les luttes, à mener des actions sociales, etc. et tout, à faire de la politique autrement, on le reconnaissait, mais pas du tout au niveau national. Et on n'a pas su, je crois, on l'a condamné, on l'a critiqué, mais on n'a pas su s'adapter à une cinquième constitution, à une cinquième république. On a voté contre, on est un peu resté sur un schéma on n'a pas su s'adapter à cette république qui avait un pouvoir présidentiel poussé à l'extrême, etc., qu'il faut mettre en bas pour remplacer par une sixième république. On n'a pas su, dans le cadre de cette république, trouver les formes qui permettent d'être utiles et de faire émerger un autre projet de société possible, parce qu'il faut qu'il soit possible. Si on émet des idées... Et je pense que nous sommes en train, c'est qu'un début, hein, nous sommes en train de prendre le chemin. Alors il faut du temps, oui, il faut du temps, il faut de la réflexion, il faut des expériences, on se trompe, et on s'est trompé, comme tous les partis politiques des fois se trompent, mais nous avons tiré des enseignements des 20 dernières années, je pense que nous sommes en train de prendre le chemin d'être utile à notre pays pour une rupture et des changements
possibles. Au-delà des 20 dernières années, plutôt des 30 dernières années, est-ce que participer au gouvernement Mauroy et surtout Jospin, ça ne vous a pas servi de leçon, ça ?
Mais je crois qu'on a bien fait d'y participer, parce que ce sont les électeurs qui décident. Alors, avec du recul, c'est facile à dire, mais imaginez, moi j'étais à Paris en 81, et à la période précédente 81, je faisais partie du cercle rapproché, du secrétariat de Georges Marché. Imagine une seule seconde qu'en 81, le Parti communiste a dit « Nous, on ne participe pas, on n'en veut pas ». Mais ça aurait été incompris par, disons, toutes ces électrices et ces électeurs qui, à ce moment-là, le Parti communiste faisait plus de 15%, 16,5%, 16,4% si je ne me trompe pas, 80, qui portait oui. un espoir de changement très fort. Et il faut que les partis politiques, avec les gens, comme le peuple, fassent leur propre expérience. Et 81, pour aller vite, excusez-moi, mais pour aller vite, 81, il n'y a pas eu que des... Entre 80 et 83, il n'y a pas eu que des mauvaises choses, hein. Il y a eu aussi des bonnes choses, il ne faudrait quand même pas les oublier au niveau de l'augmentation des salaires, au niveau des entreprises, etc. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des bonnes avancées.
Est-ce que le Parti communiste n'a pas été en quelque sorte un peu victime entre les allers-retours, entre ce que tu disais, l'utilité nationale et l'international communiste ?
Ah, la situation internationale aide ou n'aide pas. Alors, on ne peut pas dire des fois qu'elle nous aide dans un sens, je ne sais pas. Elle est telle qu'elle est. Et les communistes français ne sont pas responsables, disons, de la situation internationale.
Non, mais par rapport à certaines orientations ou réorientations.
Non, je ne crois pas. Je crois que, bon, on réfléchit à des expériences, etc.
Non, mais ça, c'est un retour sur l'histoire. Hein.
Moi, je fais partie de la direction nationale du parti. Je n'ai jamais ressenti qu'on ait des ordres, etc. Et même lorsque j'étais au début de militant, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Pour vous dire, moi, Staline, j'étais en couche-culotte quand il était mort. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était que le stalinisme, parce que je pensais que le stalinisme, pour moi, c'était le culte d'un homme, etc. Je ne comprenais pas pourquoi on adorait cet homme-là. Je n'avais pas compris que c'était un système. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre, disons, ce qu'était le stalinisme.
Oui, mais enfin, 89 a été quand même dur.
Oui.
C'était une période quand même très dure, quand même, pour le Parti communiste.
Oui, bien sûr, il y a eu des périodes très dures, mais je dirais que depuis le temps qu'on nous enterre, aujourd'hui, le mort se porte pas trop mal. Et d'ailleurs, il inquiète beaucoup. Sa santé inquiète beaucoup de monde, donc ça me réjouit. Mais on a tiré, je crois, des enseignements de ces périodes difficiles. Je pense que, vous voyez, comme vous faites, je sais que vous êtes un féru de l'histoire du Parti communiste, Il y a eu plusieurs mouvements. On a pensé à un moment donné que finalement il fallait transformer le Parti communiste. Je ne parle pas de ceux qui voulaient le supprimer, c'était leur droit d'ailleurs, hein. Mais qu'il fallait le transformer en le calquant sur la société française. Alors, un parti politique, il est toujours en décalage avec la société. D'autres ont pensé qu'à ce moment-là, il fallait complètement se déconnecter de la société française. Non, un parti politique, il vit, il n'a d'existence que s'il est vraiment imprégné de la vie de son peuple, de ses aspirations, de ses souffrances, s'il est capable d'en réfléchir et d'en tirer des analyses et de faire un pas, même si c'est qu'un petit pas à son peuple. C'est ça l'utilité d'un parti communiste. Sinon, il disparaît.
Mais moi, en l'occurrence, est-ce que ce n'était pas au temps du Front Populaire en 1936 qu'en fait vous aviez le plus raison en pratiquant le soutien sans participation et en appelant à la grève générale pour soutenir le gouvernement de Léon Blum ? Est-ce que ce n'était pas ça la meilleure des stratégies ?
Ça dépend comment on le regarde. Ça a été une très bonne stratégie puisque 1936 a apporté beaucoup. On a encore des conquêtes de 1936 qui sont fortes. Et surtout, notamment 1936, en dehors des conquêtes, a apporté l'idée qu'un mouvement populaire pouvait gouverner. C'est-à-dire que le peuple était majeur pour gouverner. Mais en même temps, et je ne dis pas que notre participation aurait réglé les choses, en même temps, 1936, un an après, c'était le retour de la droite. C'était un gouvernement d'extrême droite dans les années 38-39, c'était la guerre. C'est-à-dire que là, dans ce mouvement, il y a eu incontestablement une forme d'échec. Je prendrais pour notre région une forme d'échec, peut-être, si on avait participé. Je dis bien peut-être, hein, je ne suis pas historien et je ne suis pas assez féru, mais je dirais que, par exemple, est-ce que les dérives du Parti Socialiste, en fait, ce n'est pas le Parti Socialiste actuel, mais les dérives des dirigeants de gauche dans la non-intervention en Espagne n'a pas permis de donner plus de poids au fascisme qui naissait en Allemagne, et est-ce que la participation des communistes n'aurait pas pu imposer, non pas de nous mêler des affaires du peuple espagnol, mais faire en sorte que ce peuple d'Espagne garde sa liberté et choisisse souverainement son pouvoir et pas de passer par les armes. C'est une question qu'on peut se poser.
Voilà. Si on en revient à aujourd'hui, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et si on écoute attentivement Hollande, ou plutôt notamment un de ses conseillers, M. Cahuzac, qui proclamait que le programme de Hollande, pour le deuxième tour et au-delà, c'était apprendre ou à laisser. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ces conditions-là ? Est-ce que vous allez choisir entre la peste et le choléra ? Ou alors est-ce que vous êtes là uniquement pour abattre des voix vers le grand méchant mou au deuxième tour ?
Je veux dire très franchement, c'est-à-dire qu'il y a une connerie monumentale. Parce que ça ne se passera pas comme ça.
C'est du coup, Mélenchon a dit, si c'est comme ça, on laisse.
Ça ne se passera pas comme ça. Je crois que, tout d'abord, on ne peut pas
Michel.
Demander la démocratie, demander à ce que ces 34% des gens qui ne vont pas voter aillent voter, et leur dire, quoi que vous votez, on ne changera pas. Tous les partis politiques, au lendemain de l'élection présidentielle, fonctionnent de leurs résultats, du moins je l'espère, se poseront des questions. Examinons, parce que là on aura les urnes que auront parlé, les citoyens qui se seront exprimés. Et on verra bien par rapport à ses propres résultats, par rapport aux résultats des autres, dans quel sens il faut qu'on modifie, qu'on aille plus loin, qu'on rectifie peut-être un peu. Et là, il y aura une période de rectification possible. C'est entre les présidentielles et les élections législatives.
Alors c'est quoi la stratégie du Parti communiste aujourd'hui ? Si j'ai bien compris, c'est au-delà de la présidentielle, aux législatives, si j'ai bien compris, d'empêcher le PS d'avoir la majorité absolue. De façon à ce que la majorité absolue à gauche comprenne le front de gauche, notamment les députés communistes, pour infléchir une politique plus de gauche.
Bon, je vais vous dire, ce n'est pas empêcher. Je pense qu'il faudra une composition à gauche de l'Assemblée nationale où les députés front de gauche, lorsqu'ils parleront, seront écoutés, entendus.
Donc,
et pour ça,
donc empêcher le PS d'avoir la majorité absolue.
S'il y avait une large majorité de gauche à l'Assemblée nationale, dans lequel il n'y ait pas un seul parti qui ait la majorité absolue, ce serait une bonne chose.
Ce qui était le problème en 1981, où en 1981, les socialistes avaient eu la majorité absolue à eux tout seuls. Donc du coup, le PS ne pouvait plus poser.
Ce serait la plus grosse représentativité à la Chambre des députés en législature.
À la condition que le PS n'ait pas la majorité absolue.
Voilà.
Donc il faut essayer de lui nuire, quelque part lui nuire.
Non, il ne faut pas lui nuire. Il faut qu'il ait le maximum de députés, mais nous aussi. Et les scores montrent qu'on peut arriver. Vous voyez, si vous prenez les scores des présidentielles, au premier tour, 30% le PS, 15% le Front de Gauche, on pourrait dire que pour deux députés socialistes, ce serait bien, s'il y avait une proportionnelle à gauche, qu'il y ait un député de Front de Gauche élu. Pourquoi aussi ? Ça a une très grande importance. Parce que je crois que dans cette élection, et peut-être le désintérêt des gens, les gens ont assez qu'il y ait un seul homme qui décide de tout. Et il faut redonner à l'Assemblée nationale, qui vote les lois quand même, et l'Assemblée nationale elle peut se réunir au lendemain des élections législatives et voter un programme d'augmentation du SMIC pour les 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 à venir. Elle peut le faire et le gouvernement est obligé de la mettre
en œuvre. C'est pas qu'un comité de salut public avec des sans-culottes, quoi.
Et pourquoi pas ? Allons-y, allons-y. Il ne faut pas avoir peur des choses, vous voyez. Et non, elle peut imposer qu'on revoie cette constitution pour que le peuple soit entendu. Et donc, c'est très important, la composition de l'Assemblée nationale, parce que ça remettrait aussi un peu la politique à l'endroit. Parce qu'elle est quand même un petit peu à l'envers aujourd'hui, et on le ressent dans cette élection présidentielle.
One, two, three, check. C'est OK.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.